Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind in der zweiten Teile live in der Sendung für eine Trost in Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Sie sind da, um Afrika zu entdecken, seine Politik, Kultur und auch seine Musik. Also willkommen bei Kanal K. Heute Abend, ich werde mit meinem Gast, Marcelin Kuenom, per Telefon über 52-jährige Unabhängigkeit des Benin berichten. Viel Vergnügen auf Radio Kanal K. Ich bin Sibir Amos am Mikrofon. Bonsoir Lomé, bonsoir Abidjan, Bamako, Conakry, amis panafricanistes. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Kanal K. Mercredi 1er août dernier, le Bénin fêtait ses 52 ans d'indépendance. Marcelin Kuenom, un Béninois résident en France, nous avait commenté et analysé la situation politique du Bénin après 52 ans d'autonomie. Et bien sûr, c'était dans la première partie de cette émission. Et merci à notre radio partenaire Légende FM à Lomé au Togo pour la rediffusion de cette deuxième partie demain dimanche à 18h GMT. Eh bien, dans la deuxième partie de cette émission, et elle sera largement dominée par l'actualité politique au Togo et ce sera dans quelques instants avec notre correspondant au Togo et aussi avec nos invités sur place en direct depuis Lomé. L'équipe est au complet. Josué Maoli, Esteban Gagnon, Romain Koudodi, Fabi Kouassi et Augustin Amega. Et tout ceci sous la supervision de Michel Poilo. Eh bien, Romain est déjà en ligne pour son éditorial. Romain, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
Oui, comment vas-tu, Romain?
Je rends grâce à Dieu. Je vais très, très bien.
Merci beaucoup, Romain, d'être toujours avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
Merci, Sylvain.
Eh bien, nous allons écouter tout de suite l'éditorial de Romain, puisqu'il est déjà en ligne, en direct, depuis Bonn, en Allemagne.
Côte d'Ivoire, je te pleure. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Le mardi 7 août, le peuple frère, peuple ami de la Côte d'Ivoire, fêtait ses 52 ans d'indépendance, soit deux générations d'affranchissement. Mais hélas, il ne fait pas bon vivre dans ce pays du vieux. Les armes lourdes crépitent encore et l'insécurité s'y est. Un rapport de la Commission nationale d'enquête, CNE, remis le mercredi 8 août au président Alassane Ouattara, estime que les forces armées de ce dernier ont tué plus de 700 personnes durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Les forces pro-Gbagbo sont elles aussi accusées. Les soubresauts de la crise post-électorale sont toujours bien visibles dans ce pays. Depuis le début de la semaine, plusieurs attaques ont fait une dizaine de morts et plusieurs blessés parmi les soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRRC. Une enquête réclamée par le président Ouattara lui-même, mais dont l'impartialité est contestée par les fidèles de l'ancien président Laurent Gbagbo et de ses nombreuses ONG, HRV, Amnesty International, ICG, permet d'en savoir un peu plus sur les violences commises durant la crise de 2010 à 2011. Et cette crise a donné lieu à de massives violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, a déclaré Paulette Badjo en remettant son rapport issu d'un an d'enquête et de l'audition de près de 16 000 personnes créées par le chef de l'État. La commission a enregistré 3248 personnes tuées durant la crise, un chiffre qui reste certainement en deçà de la réalité, a-t-elle indiqué. Les forces armées pro-Gbagbo sont responsables de la mort de 1452 personnes, dont 1009 exécutions sommaires. Tandis que les forces républicaines FRC de M. Ouattara ont causé la mort de seulement 729 personnes, dont 545 exécutions sommaires. Et selon les données citées par Mme Badiou, qui n'a même pas précisé l'identité ni le statut civil ou militaire des victimes, de son côté, l'ex-chef de l'État est incarcéré depuis 2011 à la Cour pénale internationale CPI de La Haye, qui le soupçonne de crimes contre l'humanité. Une vingtaine de figures du camp Gbagbo, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo et des dizaines d'autres personnes de ce bord, des civils et des militaires, sont inculpés et détenus en Côte d'Ivoire. Il nous importe, en tant qu'Africains, ayant des liens familiaux avec la Côte d'Ivoire, d'interpeller Alassane Ouattara sur un ton assez grave en lui disant qu'à l'heure où il parle lui-même de réconciliation, il importe que ces hommes qui l'ont amené au pouvoir en causant des graves violations des droits de l'homme soient aussi jugés pour l'apaisement dans ce pays. La paix, c'est aussi un comportement de soi. Mais en attendant ce jour, nous faisons tous ensemble le deuil des innocents tués par la bêtise humaine en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, nous te pleurons.
Merci beaucoup, Romain Koudodi, pour cet éditorial. Encore une fois, merci et samedi prochain.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah, Nyelolo. Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah, Nyelolo. Mama Africa, we nye danyelolo to. Anosi wo ye nyim to revi. Adino, Adino, Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah, Yelolo, Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah, Yelolo. Bukele la mena made, bukawa me ye beso. Play me when I'm blue. Mama, mira lo titre o la vallaro. Africa, viwe, ya no ya milo. Africa, eh, Africa, eh, Africa.
Africa Nyelolo, chanté par Arsène Dovi, un jeune Togolais, un jeune artiste togolais, et qui évolue actuellement en Italie et plus précisément à Milan. Eh bien, avant de prendre nos invités qui vont commenter et analyser la situation politique au Togo, nous allons d'abord accueillir tout de suite notre correspondant Augustin Améga qui est déjà en ligne. Nous l'accueillons tout de suite. Augustin Améga, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Et vous êtes notre correspondant, je viens de le dire tantôt. Vous êtes également directeur de publication du journal Le Canard Indépendant. L'actualité politique au Togo qui a marqué les Togolais cette semaine est le meeting du collectif Sauvons le Togo au nord du Togo. Alors celui de Kara n'a pas pu se faire. Les responsables du collectif Sauvons le Togo ont fait cas des actes d'intimidation dont ont été victimes leurs représentants dans la ville avant leur arrivée. Augustin Mega.
Oui, le meeting du collectif Sauvons le Togo a été empêché par des miliciens à Kara. Des miliciens, dont certains avaient dans leur voiture des armes blanches. Et à ce jour, ce qui est choquant, c'est que le gouvernement n'a pas réagi en condamnant fermement cette entrave à la liberté de manifestation, puisque toutes les démarches administratives ont été remplies par le collectif Sauvons le Togo pour tenir ce meeting. Mais curieusement, à leur arrivée au lieu indiqué pour le meeting, le lieu était occupé par des jeunes qui disaient discuter un tournoi de football. Et le plus grave encore, c'est qu'on a eu dans la presse un communiqué, soi-disant, un communiqué signé d'un Kidam au nom de la population de Kara, disant qu'il ne veut pas du CST à Kara. Et on a pu également entendre, le jour même de l'empêchement de la manifestation, des jeunes dire qu'ils n'avaient pas besoin d'être sauvés, que Kara était sauvé. Et également, des responsables d'organisations estudiantines ont envoyé une lettre de menace à l'un des membres du CST, Abbas Kaboua, qui était allé à Kara pour organiser le meeting, ce à quoi Abbas Kaboua a réagi en portant plainte contre ses étudiants.
Oui, Augustin Améga et Pascal Bodjouna, ancien ministre de l'administration territoriale, devrait être entendu vendredi dernier et par le président de la Cour d'appel de Lomé. Alors, c'est dans l'affaire d'escroquerie internationale dans laquelle le richissime homme d'affaires Sorbete Agba est incarcéré depuis plus d'un an à la prison civile de Lomé. Et Augustin Améga, certaines sources nous font croire que cette convocation n'a jamais été existée.
Finalement, Pascal Bodjouna a été écouté par des juges tard dans la soirée de vendredi vers 17h30. Et selon les informations, cette audition a été très houleuse parce qu'au départ, Pascal Bodjouna, qui était convoqué pour être entendu comme témoin dans cette affaire, cette juge signifiait qu'il devrait être écouté en tant qu'inculpé dans cette affaire et l'ancien ministre de l'administration du territoire aurait donné et ça fait ce qui a fait que l'audition a été très houleuse et finalement Pascal Bodjouna après son audition est rentré chez lui à la maison. Reste à savoir maintenant si ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui visiblement en veulent à Pascal Bodjouna vont revenir à la charge et de quelle façon. Ce que nous avons entendu d'une source bien informée, c'est que les magistrats qui ont écouté Pascal Bodjouna n'ont finalement pas souhaité mettre en œuvre le plan que tapis dans l'ombre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et un président dessus de la Cour suprême entendait de, à savoir écouter Pascal Bodjouna et le déposer à la prison civile de Lomé vers la fin de la journée de vendredi, quitte à voir passer le week-end et mettre tout le monde devant le fait accompli. Donc, on attend de voir également la suite de ce nouvel épisode qui s'écrit sur fond de discorde dans l'entourage du chef de l'État, Faure Gnassingbé.
Augustin Améga, merci pour le briefing sur l'actualité politique au Togo.
TogoCity.com IciLomé.com CVU-Togo-Diaspora.org MO5-Togo.com AfriqueInternews.com sont nos sites d'information panafricaine, partenaires de Fenêtre sur Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, nous sommes évidemment la voix des opprimés. Samedi dernier, le collectif Sauvons le Togo devait organiser un meeting à Kara. Et quelques habitants de la ville de Kara ont causé des troubles. Et finalement, le meeting de Kara a été annulé. Et le collectif, quant à lui, affirme que des menaces ont été proférées à l'endroit de ses responsables samedi dernier à Kara. Nous accueillons tout de suite en ligne, en direct depuis Lomé, un membre de ce collectif afin qu'il nous éclaire sur ces incidents qui ont eu lieu au cours de ce meeting que devrait organiser et le collectif Sauvons le Togo. Nous l'accueillons tout de suite en direct depuis Lomé. Bonsoir, monsieur Atoli Kao.
Bonsoir, monsieur.
Merci de répondre à notre invitation depuis Lomé. Vous êtes en direct depuis Lomé. Vous êtes secrétaire général de ACIVITO, Association des victimes de la torture au Togo. Vous êtes un ancien militaire qui a été emprisonné dans l'affaire Kwacha Nyasimbe, demi-frère du président Faure Nyasimbe. Et votre association est également membre du collectif Sauvons le Togo. Alors écoutez, monsieur Atoli Kao, dans une déclaration lors d'une conférence de presse mardi dernier au Togo, à Lomé, les responsables du collectif Sauvons le Togo ont fait cas des actes d'intimidation dont ont été victimes leurs représentants dans la ville de Kara. Et les mêmes responsables sont contraints de quitter Kara et le même jour, et le meeting n'a pas pu se faire. Alors, vous étiez dans la délégation du collectif Sauvons le Togo à Kara. Alors, racontez à nos auditeurs brièvement ce qui s'est passé samedi dernier à Kara.
Merci beaucoup. Et effectivement, c'est dans le cadre de sa tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays que le CST, après deux meetings organisés sans problème à l'extrême nord du pays, notamment à Dapan et à Mango, et la ville de Kara devait être la troisième ville à accueillir le meeting du CST le samedi 4 août dernier. Mais contre toute attente, le meeting a été empêché in extremis par les milices armées. J'ai donc eu l'honneur de faire partie des organisateurs du meeting à Kara qui malheureusement a été empêché par la force brute. Après donc les témoignages dignes de foi que nous avons recueillis quelques jours avant le meeting sur le terrain, le chef de l'État lors de festivités marquant la fête traditionnelle des Ivala en pays Kabyère a personnellement organisé une réunion au palais des congrès qu'il a présidé lui-même. Et cette réunion a rassemblé les chefs de cellule, les chefs de quartier, les anciens militaires. Et au cours de cette réunion, il leur a demandé expressément d'empêcher à tout prix l'installation et les manifestations du CST à Kara. À l'issue donc de cette réunion, les billets de banque et les sacs de riz à l'effigie bien sûr du chef de l'État ont été distribués aux participants. Il est donc important de constater vous-même le caractère particulier qu'on veut faire de la ville de Kara dans le processus de démocratisation de notre pays. Alors que cette ville est déjà fragilisée, elle est déjà assise sur une bombe à retardement caractérisée par les dossiers Kwacha Nyasimbe, Soubertin Agba, les revendications des étudiants et puis les nombreux problèmes fonciers, sans oublier notamment l'extrême pauvreté qui se vit dans le milieu. En fait, cette milice est dirigée par un officier de police en la personne de Bimizi et par un journaliste de la presse écrite se place là-bas à Kara, un certain Mouchoudou Boukari, qui est le directeur de publication de La Voix de la Cosa, et de M. Assoba, qui est le président des jeunes de Unir, le nouveau parti du chef de l'État.
Oui, monsieur Acholi Kao, comment peut-on présenter ou bien qualifier ces intimidations de ces miliciens?
Oui, effectivement, bon, on ne doit pas chercher de midi à 14 heures pour le savoir, parce que le principal cerveau de cette milice, c'est un officier de police. Et c'est cet officier qui est chargé des audiences du chef de l'État à Tara. Et il opère en toute impunité, comme le sous-colonel Ernest Nyasimbe, dont le passé est reconnu tristement dans ce pays. Et ce qui explique, au fait, vous savez que aujourd'hui, l'entourage du chef de l'État, bon, c'est une véritable passoire d'informations. Il nous a donc été rapporté à l'avant-veille, puisque j'étais sur le terrain 72 heures avant le meeting, que les renseignements du chef de l'État lui ont rapporté que la mobilisation sera monstre, puisque les étudiants ont fait le maximum de la mobilisation par le porte-à-porte, et que depuis les villages, les gens devraient venir en ville pour participer au meeting. Et alors, il n'avait pas d'autre choix à faire que de donner 152 millions de francs CFA pour utiliser la force brute par le biais de la milice armée. Il a donc un désaveu flagrant dans son milieu, et ce qu'il a voulu éviter, c'est un décompte de Akara.
Monsieur Acholi Kao, est-ce qu'on pourrait dire que Kara, qui a été longtemps un fief du pouvoir, est une ville entièrement à part ou une ville hostile au changement démocratique au Togo?
Et s'il y a une ville vraiment qui est assoiffée du changement, qui attend le changement pendant vraiment impatiemment, c'est cette ville qui est à Kara. C'est vraiment la préfecture de la Kosa qui souffre aujourd'hui, parce que la pauvreté, mon frère, elle est très accrue là-bas, et puis les gens n'arrivent même pas à subvenir à leurs petits besoins. Et tenez-vous bien, les gens ont quitté Pia, le village même du chef de l'État, ils ont quitté à pied pour venir participer au meeting du collectif Sauvons le Togo à Kara. Ils sont venus à pied, ils ont parcouru donc 15 kilomètres pour venir participer à un meeting que la milice a empêché. Donc vous comprenez que c'est des discours, et puis aujourd'hui, avec l'université de Kara, les villageois, les populations sont informés de la réalité de ce pays, et puis ils savent très bien que le pays est très riche.
Et que le pays va mal.
Le pays est riche, mais ce sont les minorités qui ont dit, comme le chef de l'État lui-même l'avait
déclaré
dans son discours. Et puis, bon, entre-temps, ce sont les mêmes autorités pendant les festivités à Kara. Bon, on se déplace avec des grosses cylindrées, des voitures de luxe. Et puis, bon, au même moment, ils racontent des faussetés aux populations. Aujourd'hui, il faut savoir que vraiment, la population est instruite, et puis elle cherche à sortir vraiment de cette ignorance, et elle veut vraiment une véritable émancipation.
De toute façon, ça fait longtemps que cette population est déjà arrivée. Hein. Alors, Monsieur Acholi Kao, je le disais, que vous êtes secrétaire général de ASVITO, Association des victimes de la torture au Togo. Vous êtes également un ancien militaire qui a été emprisonné dans l'affaire Kwacha Nyasimbe, demi-frère du président Faure Nyasimbe. Alors, vous êtes vous-même victime de la torture au Togo. Il nous est aussi rapporté que l'impunité continue au Togo. Alors que fait concrètement votre association pour que l'impunité cesse au Togo?
Merci. Et depuis le rapport authentique de la CNDH que le gouvernement Fungo a tenté dans un premier temps de traficoter, nous avons lancé notre association parce que les tortures continuent de plus belle dans notre pays et que les tortionnaires continuent de circuler librement et de narguer les populations togolaises. Ceci est une violation d'abord du règlement intérieur de l'armée togolaise qui stipule que tout officier reconnu coupable d'un crime doit faire 90 jours d'arrêt de forteresse et ensuite doit passer devant un conseil militaire qui devra enfin soit renvoyer bien sûr devant les tribunaux, soit le radier de l'armée. Vous voyez donc que cet article a été toujours respecté dans les forces armées togolaises, mais le chef de l'État et ses sécurités veulent abroger à la règle cette fois-ci. Aussi, bon, les victimes de la torture continuent par courir en prison. Vous savez très bien qu'il y a de ces innocents-là comme moi qui sont toujours en prison, qui ont été torturés, sont donc victimes de la torture et qui continuent par souffrir dans les prisons civiles de Sokodé, d'Atapame, de Tchévié et ici de Lomé. Donc, dans ce cadre, l'association entend mener des actions sur le terrain, notamment la sensibilisation, surtout au niveau des forces armées. Nous voulons donc amener les forces de l'ordre à connaître les instruments nationaux et internationaux sur la torture et autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant. Et enfin, protéger les militaires qui se refuseront d'exécuter les ordres illégaux, puisque c'est ce qui se passe généralement dans notre boîte, dans notre armée ici, c'est que les ordres sont illégaux et de peur de perdre son boulot, on est obligé, on se trouve dans l'obligation de les exécuter. Maintenant, l'association veut se donner des moyens, se doter des moyens afin maintenant de protéger ces militaires qui auront le courage de refuser d'exécuter ces ordres illégaux.
En tout cas, oui, allez-y, ouais, encore une minute.
Oui, aujourd'hui, nous sommes vraiment souffrants. Nous venons de subir une opération d'un de nos membres qui a été sérieusement torturé à l'ANR. Et c'est suite à cette torture qu'il a eu vraiment une gangrène et il a été opéré la dernière fois. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai des troubles de vision et puis un mal de cou et des ulcères que les tortures m'ont engendré.
En tout cas, merci beaucoup à Tcholi Kao. Et je l'avais dit, que vous êtes secrétaire de général de Assivito, association des victimes de la torture au Togo. Vous êtes aussi un ancien militaire qui a été emprisonné dans l'affaire Kwacha Nyasimbe, demi-frère du président Fonia Simbe. Bon courage à vous. Et on sait que vous êtes victime de la torture au Togo et c'est pas facile. En tout cas, bon courage et merci d'avoir répondu à notre invitation en direct depuis Lomé.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, depuis une semaine, une nouvelle coalition a vu le jour à part le collectif Sauvons le Togo, et arc-en-ciel composé de 6 partis politiques. Alors, pour nous éclairer et sur leurs idées et sur la vie politique au Togo, nous avons également pris contact avec un membre de ce collectif arc-en-ciel et que nous accueillons tout de suite en direct depuis Lomé. Bonsoir, monsieur Diri Taman.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis Lomé. Vous êtes président de la Nouvelle Engagement Togolais, un parti créé il n'y a pas très longtemps. Votre parti est également membre de la nouvelle coalition Arc-en-Ciel qui vient d'être créée. Arc-en-Ciel qui est composé de 6 partis politiques. Alors, directement, est-ce que vous comprenez la polémique qui marque la naissance de la coalition Arc-en-Ciel?
Oui, on comprend la polémique, parce que, vous savez, nous sommes dans un paysage politique togolais qui a une historicité, donc il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis, on va dire depuis les années 90, hein, et les coalitions, on a eu beaucoup de coalitions dans ce pays, on a eu aussi hein, beaucoup de trahisons, et je comprends parfaitement que le fait que une coalition naisse alors qu'il y avait déjà un collectif qui fait déjà pas mal de bruit sur le terrain, ça puisse créer une polémique. Mais là où je ne comprends pas la persistance de la polémique, c'est que tous les acteurs, que ce soit les leaders de la coalition ou les leaders du collectif, ont à plusieurs reprises expliqué qu'il n'y avait aucune contradiction, aucune opposition entre les deux mouvements. Donc la coalition est née, oui, mais qu'elle persiste, on est plutôt surpris.
Eh bien, au centre de ces polémiques se trouve Maître Yaoui Agboibo Dukar, qui est actuellement le président d'honneur de ce parti politique. Alors, Maître Agboibo Dukar, et qui est également un survivant de la classe politique togolaise, si on pouvait le dire comme ça, et qui avait combattu Feunia Singbe Yadema, les hantises exprimées ne sont-elles pas fondées quand on scrute les causes des échecs passés?
Bon, vous savez, moi j'ai un avantage peut-être, ou bien pas un avantage, j'ai une particularité par rapport aux autres partis politiques qui constituent donc cette coalition, c'est que moi je suis un nouveau venu sur la scène politique. J'ai même un parcours assez atypique puisque moi je suis ancien militaire, donc je n'ai vraiment pas eu à affronter et à rentrer dans les combinaisons et les antagonismes précédents. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que depuis maintenant un mois et demi que je travaille, que je travaille avec les autres confrères leaders des différents partis politiques, pas une seule fois je n'ai eu à travailler avec Maître Yaoui Agboibo. Ça c'est la première précision que je peux donner. La deuxième précision, qui à mon sens vaut tout son pesant d'or, c'est que à toutes les séances, nous avons eu à prendre des décisions qui étaient importantes, nous avons eu à prendre des décisions parfois qui étaient spontanées, et à aucun moment j'ai eu l'impression que M. Apevon, pour lequel j'ai un profond respect, que je trouve très dense, très dynamique, ni M. Kissi, qui à mon sens aussi est très compétent, à aucun moment ces deux personnes n'ont quitté la salle pour dire, bah, écoutez, on va aller appeler ou bien consulter quelqu'un. Je pense que nous devons, à mon sens aussi, considérer, avoir plus de considération pour les gens qui ont repris le fondement de la lutte au niveau du CAR et le considérer dans leur entièreté. Parce que ça fait un mois et demi qu'on fait des négociations, parfois ça a été très dur, parfois ça a été même très houleux, pour obtenir le consensus, et à aucun moment je n'ai eu l'impression que quelqu'un, que ce soit donc plus que la polémique tourne autour de Maître Agboibo, je n'ai jamais eu l'impression que c'est Agboibo qui tirait les ficelles. Si c'est le cas, en ce qui concerne la position du NET, le NET n'a jamais pris des décisions qui ont été conditionnées par l'aval ou l'avis de M. Agboibo.
Et directement, vous venez de l'affirmer vous-même que vous êtes un ancien militaire, donc un homme en kaki reconverti. Alors quand on connaît l'histoire politique du Togo et le rôle que joue l'armée dans la politique, est-ce que votre personnalité ne prête-t-elle pas confusion directement?
Oui, bon, écoutez, vous savez, je considère qu'il y a eu, nous avons eu une histoire assez tumultueuse, et aujourd'hui, je mets l'accent sur cette nouvelle génération de Togolais, et cette nouvelle génération de Togolais, peut-être je la caractérise, mais c'est cette nouvelle génération de Togolais qui refuse de subir l'histoire, qui refuse de subir le passé, et qui veut regarder la vie en avenir. Il y a des gens aujourd'hui qui ont décidé, par exemple, de ne jamais me faire confiance sous le prétexte que je suis ancien militaire. Je vais même aller plus loin, Joël. Il y a des gens aujourd'hui qui décident de ne pas me faire confiance parce que je suis cabier. Est-ce que vous comprenez? Mais ça fait partie de... Voilà, il faut tout pour faire un monde. Des gens disent, depuis quand même un ancien militaire peut être dans l'opposition? Des gens te disent, mais depuis quand ce gars-là, c'est un cabier? Moi, en réalité, je suis plus l'osso que cabier. Mais ma mère est cabier, mon père est l'osso. Mais depuis qu'un homme du Nord peut venir dire qu'il fait la politique et qu'il est de l'opposition? Mais je le dis encore, les jeunes qui ont 22 ans aujourd'hui sont nés en 90 à 91 et les réalités qui les importent ne sont pas la réalité des différents que nous avons nourris dans ce pays depuis les années 90. Nous avons un peuple qui a 70% de sa population qui souffre, qui vit dans la misère, et c'est trouver les voies et moyens pour sortir de cette misère-là qui est importante. Donc, que des gens décident de pas faire confiance, de pas me faire confiance, sans écouter ce que je dis, mais en regardant ce que j'ai été et ce que j'ai pu être, ben, en réalité, libre à eux. Ce qui est bien dans la démocratie, c'est que chacun a la liberté de son opinion.
Oui, directement, la coalition arc-en-ciel déclare qu'elle pourrait participer aux manifestations du collectif Sauvons le Togo. Donc, à quelles conditions?
Non, la coalition arc-en-ciel n'a jamais déclaré qu'elle pourrait participer aux manifestations de Sauvons le Togo. Il faut que je sois clair. Dans la coalition arc-en-ciel, il y a une liberté entière qui est laissée aux partis politiques. D'une part, de rentrer dans les formations, enfin dans les organisations qui existent, et ensuite, d'autre part, de mener leur activité. Dans la coalition arc-en-ciel, il y a eu deux partis qui ont été associés aux travaux de création du CST, qui sont le CAR et la CDPA. Le CAR et la CDPA ont dit que l'une des réserves qu'ils avaient émises pour la création du CST, c'était justement l'alliance électorale débouchant sur une alliance politique débouchant sur l'alliance électorale. Et ils disent aujourd'hui qu'ils ont réussi à commencer à mettre en place cette alliance politique débouchant sur une alliance électorale, qui a plus objectivement des raisons qui font qu'ils ne vont plus aller, bien entendu, aux manifestations de CST. Ils ont dit qu'ils sont maintenant disposés à aller signer le protocole consultatif du CST. Honnêtement, personnellement, je n'en sais absolument rien. Je sais même que, au niveau du collectif, on a dit chaque parti était libre d'accès de participer aux activités du CST ou d'une autre constitution ou bien d'une autre formation ou d'un autre regroupement complètement à la charte du parti. Et au même moment, nous disons que les partis qui sont dans le CST sont libres, s'ils pensent que l'alliance électorale est très importante, sont libres aussi de rentrer dans la coalition pour aller aux élections après avoir obtenu les conditions optimales de transparence, de crédibilité et d'équité des élections. Donc aujourd'hui, il y a deux partis qui officiellement ont dit qu'ils ne trouvaient pas à redire sur le principe d'aller aux manifestations du CST, donc là c'est le CAR et la CDPA, et il y a un autre parti qui est l'UDS qui avait fait une demande pour participer aux activités du CST, et bon, je pense que la demande n'a pas encore été, ils n'ont pas encore eu l'autorisation de rentrer, mais c'est cette liberté qui existe, mais au niveau de la coalition n'a pas dit qu'elle va se lever, puisque chaque parti a la liberté d'adhérer au CST. Je pense que les adhésions au CST se font de façon individuelle et chaque parti a la liberté de faire une demande d'adhésion et puis bon, ben s'il est autorisé, il y aurait. Il y a peut-être une autre précision que je devais donner pour les éditeurs qui nous écoutent. Il faut savoir que, ben, en fait, il suffit pas de vouloir rentrer au CST pour y rentrer. C'est-à-dire que les membres du CST l'ont encore la dernière fois précisé, mais ils ont des critères qui sont bien particuliers, qui sont propres à eux, donc qui sont même un peu subjectifs à eux. Donc c'est uniquement ces critères-là qui font que même quand un parti demande à rentrer dans le CST, ben, ils analysent par rapport à leurs critères et puis accèdent à la demande ou rejettent la demande. Donc aujourd'hui, deux partis sont déjà sur les starting blocks puisqu'ils faisaient partie des partis qui étaient organisés pour le protocole consultatif. Il y a un troisième parti, membre de la coalition, qui veut y aller. Maintenant, pour les autres, je n'en sais rien. Le NET n'a pas fait de demande pour entrer au CST et le CST n'a pas demandé au NET de rentrer au CST.
Directement, et pour certains, l'urgence est au combat pour arracher les réformes en vue de garantir des élections crédibles au Togo. Alors, vous leur opposez le refus du boycott et comme principe et mettez en avant une alliance électorale. Alors, à quoi cela servirait-il d'aller aux élections pour que cela se solde comme d'habitude et par un hold-up électoral ou plus tard l'exclusion des députés comme ce fut le cas, par exemple, des députés de l'ANC directement?
Voilà, je vais expliquer aussi pour que les auditeurs nous comprennent parfaitement. Dans le plan d'action ou bien dans le cheminement de la coalition, il y a trois étapes. La première étape consiste à obtenir les conditions optimales de transparence, d'équité et de crédibilité des élections. Cette étape rejoint aussi la première étape du CST. Et là aussi, je peux peut-être, si vous m'autorisez, expliquer aussi les trois objectifs du CST. Le CST a trois objectifs. Il y a un objectif qui concerne les droits de l'homme, il y a un objectif qui concerne la politique et il y a un troisième objectif qui concerne la gouvernance. Sur les trois objectifs, c'est un peu comme vous savez, quand on était au CE2, on faisait, non, en cinquième, on faisait les ensembles et puis, bon, ben, il y avait les intersections entre les ensembles. Donc, sur les trois objectifs, là où il y a une intersection entre au niveau, sur la première étape, hein, entre le CRT et la coalition, c'est d'abord l'obtention des conditions optimales pour aller aux élections. Pour ça, la coalition ne dit pas on veut aller aux élections uniquement parce qu'on veut aller aux élections, mais il faut obtenir les conditions. Et là, je ne crois pas que vous-même là où vous serez, vous refuserez que, en fait, la pression, si la pression est encore plus grande du fait de l'apport de ces six partis, et j'aimerais aussi encore préciser que la pression, elle ne doit en aucune façon se résumer uniquement à la rue. La pression, elle se fera au niveau des chancelleries internationales, elle se fera au niveau des leaders d'opinion, que ce soit africains ou internationaux, et elle se fera par la rue. Et ensuite, une fois que cette première étape a été obtenue, et là, le CNC l'a toujours bien précisé, que eux, ils sont là pour obtenir les de conditions de transparence des élections. La première étape de la coalition, c'est obtenir la condition de transparence des élections. Ensuite, là où peut-être la coalition est complémentaire et a des objectifs qui vont plus longtemps dans le temps, c'est que la coalition va aller aux élections avec des listes communes. J'aimerais quand même attirer l'attention des auditeurs que quand nous prenons les élections de 2007, quand vous reprenez sur les 30, les 81 députés que nous avons eus, ben, si sur les 30 circonscriptions électorales, si l'opposition avait fait des candidatures communes, en y ajoutant bien entendu les indépendants, il y avait une possibilité d'avoir entre 40 à 48 sièges au lieu des, bien entendu, 31 sièges que l'opposition a obtenus. Donc il est très important de se regrouper, mais on le reposera peut-être dans le débat, mais ne pas limiter le regroupement à 6 partis, il faut étendre ce regroupement-là. Donc deuxième étape de la coalition, c'est aller aux élections en rang serré, comme on a l'habitude de le dire. Troisième étape, et l'étape la plus ultime, c'est que de 2012 à 2015, préparer toutes les conditions pour réaliser l'alternance. Vous savez, tout le monde dit qu'il y a eu des coalitions dans ce pays, oui. Mais les coalitions sont toujours passées à la veille des élections. Les coalitions sont toujours passées dans des conditions plutôt de désordre qui n'ont jamais donné la possibilité aux partis qui étaient coalisés de mutualiser réellement les énergies pour réaliser l'alternance. Donc, ces trois étapes, la première étape, aller trouver les conditions optimales pour aller aux élections. Deuxième étape, aller aux élections législatives et locales en 2012 sur des listes communes. Et troisième étape, réaliser les conditions de l'alternance réelle et véritable en 2012 et en 2015. Voilà les trois étapes de la coalition et j'ai précisé les trois objectifs du CST. Donc, il n'est pas question, mais je ne vois pas quel parti accepterait de se rentrer dans une coalition qui resterait bras croisés en disant, bon, ben, écoutez, nous, si on nous appelle aux élections, quelles que soient les conditions, on va y aller. Non.
Djeli Taban, je vous comprends. Alors, pour la coalition, pour le net nouvel engagement togolais, le parti dont vous êtes président, alors, vous voulez aller aux élections à rang serré, ce qui veut dire que vous croyez encore à la transparence des élections au Togo. Alors, pour répondre rapidement aussi à cette dernière question, cette émission, elle est très suivie par la diaspora togolaise qui nous suit en direct sur le www.canalk.ch et également sur nos sites d'internet partenaires d'information panafricains et togolais. Alors, la sortie ou bien la création de cette coalition arc-en-ciel, et quand on scrute, quand on décrypte un petit peu les réactions des Togolais de la diaspora sur ces sites-là, et cette coalition, elle est mal vue. Alors, quelle est votre réaction, Djeli Taban?
Bon, je ne sais pas si on lit les mêmes sites, parce que moi, j'ai une grosse présence sur Internet, hein, mais sur la plupart des sites, vous savez, il y a aujourd'hui, nous sommes au règne du web 2. Donc, une fois que il y a je veux parler par exemple de Kodjo et Kofi Epou, il y a des éditorialistes qui ont fait sortir des articles qui, je l'avoue, là, je suis parfaitement d'accord avec vous, qui n'étaient pas positifs sur la création du collectif. Mais par contre, il faut aussi le dire, quand vous regardez les commentaires qui accompagnent l'ensemble de ces publications-là, les commentaires, je ne veux pas dire qu'ils sont à l'opposé des éditorialistes, Hein, mais les commentaires sont plutôt mitigés parce que vous avez des gens qui vous disent c'est bien, ça fait longtemps qu'on attendait que les politiciens décident de se mettre ensemble, et il y a des gens qui voient en cette coalition une opération pour fragiliser le CFP. Mais je n'irai pas aujourd'hui, vous savez, je suis écrivain, blogueur, je peux moi aussi, si je le veux, et écrire 3 ou 4 éditoriaux que je vais publier sur les sites internet, j'ai l'habitude de le faire de toute façon sur tous ces sites-là, où je vais défendre la position, et je peux vous garantir que les avis qu'il y aura, les commentaires qu'on posera sur ces articles-là seront à l'image même de ce qui s'est fait sur les autres sites. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, que ce soit la diaspora ou bien sûr tous ceux qui ont intervenu sur ce sujet sur Internet soient absolument opposés à l'initiative. Mais c'est l'expression de la démocratie, c'est l'expression de l'altérité des opinions.
Bien évidemment. Bonne chose, à mon... Bien oui. évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, Jerry Taman, président du Net. La nouvelle engagement est togolais et membre également de cette nouvelle coalition arc-en-ciel. Merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis Lomé au Togo.
C'est moi qui vous remercie.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Le mouvement pour un Togo nouveau a soufflé le mois de juillet, un an. Ce mouvement, regroupant pour la plupart des jeunes de la diaspora togolaise, entend insuffler une nouvelle dynamique pour un état de droit au Togo. Son président, Lawson Alphonse Kéélou, basé au Canada, est l'invité du micro de Fenêtre sur l'Afrique. Ancien président de l'Université du Bénin, actuelle Université de Lomé, Lawson Kéélou, Lawson Alphonse Laté Efoumé est aussi membre du mouvement du 5 octobre MO5. Bien que la diaspora togolaise n'étant pas comptée par les autorités togolaises, elle participe d'une manière ou d'une autre au développement économique et même politique du Togo. Et au moment où le Togo peine à retrouver une stabilité politique et pendant que la population, malgré les dissensions au sein de l'opposition, est déterminée à en découdre avec le régime vieux de près de 50 ans, Lawson Kéélou a accepté de commenter, analyser l'actualité politique au Togo. Nous allons l'accueillir dans un instant en direct depuis Canada. Lawson Kéélou, bonsoir.
Bonsoir Amos, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Canal K et à Péninsule Afrique. Je dis merci également à tous ceux qui sont en ligne en train de suivre cette émission. Un coucou à tous les Togolais au Togo, à Lomé et sur toute l'étendue du territoire national.
Merci Lawson Kéélou d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes en direct depuis Canada. Il y a un an, vous avez porté sur les fonts baptismaux le MTN, Mouvement pour un Togo Nouveau, à Lyon, en France. Et quel est brièvement le bilan dégagé et en quoi cela a été utile pour les Togolais qui quotidiennement tirent le diable à la queue et qui, selon, sont violentés et brimés par le système en place. On a comme l'impression que votre mouvement se limite seulement à des actions dans la diaspora.
Pas tout à fait, mais en effet, il y a un an, les membres fondateurs du MTN, le mouvement pour un Togo nouveau, ont porté le mouvement politique de la nouvelle génération, dont le symbole est le balai, sur les fonts baptismaux à Lyon en France. L'idée, en fait, c'était de doter la nouvelle génération. Vous savez, nous avons eu l'indépendance il y a à peu près une cinquantaine d'années. Et nous avons remarqué que sur toute la ligne, c'est un échec cuisant face à la violence politique endémique, face à la violation systématique des droits de l'homme, à la dictature, à la corruption et que sais-je encore, au vol, au siphonnage des ressources de l'État et à l'immobilisme qui ont guidé la conduite de l'action publique depuis ces 50 dernières années. Et vu les conséquences dramatiques pour la population togolaise, la misère, la paupérisation, le désordre social, politique et moral, eh bien, nous nous sommes dit qu'il fallait que la nouvelle génération puisse reprendre le flambeau dans l'esprit des actes qu'a posé les pères de l'indépendance pour doter le Togo non seulement d'une alternance, mais aussi d'une alternative pour que dans les 50 prochaines années, le Togo que nous aurons à donner ou à léguer à nos enfants soit différent du Togo que nos grands frères sont en train de nous léguer. Donc, au-delà même de la crise actuelle au Togo, c'est une projection dans l'avenir, une projection dans le futur pour être capable de lever des ressources humaines, des intelligences, des connaissances de façon à ce que nous puissions faire de notre Togo un havre de paix, de justice et surtout faire briller le Togo lors de l'humanité parmi les concerts des nations. Donc c'est un défi de notre génération, générationnel, et qui nous engage. Et comme le dit François Fanon, chaque génération doit pouvoir découvrir sa mission, la trahir être en mesure donc de la nourrir. Et au MTN, nous avons donc puis identifier notre mission, celle de pouvoir être capable, ensemble avec toutes les ressources de la jeunesse que nous disposons, bâtir une équipe compétente, forte, avec une idéologie assez agencée pour pouvoir relever le défi. Donc ça a été très apprécié, très accueilli par la jeune génération. Nous avons eu beaucoup de militants, que ce soit au Togo ou à l'extérieur du Togo. Et puis aujourd'hui, nous avons un réseau assez étendu et nous contribuons quotidiennement à la lutte politique au Togo. Et nous avons démarré ça avec l'appui que nous avons apporté au FRAC. Nous étions sur le terrain pour la campagne présidentielle aux côtés de Jean-Pierre Fabre. Nous soutenons nos éléments également sont membres du CST et soutiennent l'action sur le terrain. Bref, nous sommes actifs sur tous les points et tous les plans pour pouvoir doter le Togo pour faire entrer le Togo dans modernité.
Bien sûr. Oui, et Lawson Alphonse Elou, la crise togolaise perdue et au lieu de trouver des solutions idoines à cette crise, on assiste au Togo, tout comme dans la diaspora, à la création d'une multitude de partis politiques et associations. Et vous nous aviez certainement suivi en direct depuis Canada, en début de cette émission, et sur notre site www.canalca.ch. Vous avez écouté notre entretien avec Jerry Taman, président du NET, Nouvel Engagement Togolais. Et il n'est plus en ligne pour une discussion, mais quelle analyse objective faites-vous sur ces interventions par rapport à la création de la nouvelle coalition arc-en-ciel à laquelle fait partie son parti, le NET?
Ben, je voudrais d'abord saluer Jerry Taman, parce que c'est un camarade lui. Nous avons tous fait l'université lorsque j'étais président du conseil des étudiants de l'université du Bénin. Il était donc à la tête d'un journal qu'il avait créé qui s'appelait l'Élite. Et sa contribution donc à la lutte étudiantine a été très appréciée, inestimable même, je dirais. Ceci dit, je salue également le fait qu'il ait pu faire le saut sur le plan politique. Mais malheureusement, ce que je regrette, j'ai suivi donc son intervention, puis j'ai pas du tout été convaincu, parce que c'est ce que je redoute qui est en train de se passer, c'est-à-dire que au lieu que la jeunesse togolaise, dans toute sa diversité, se retrouve, réfléchisse, à doter donc le Togo d'instruments et surtout une nouvelle vision qui puisse transformer les choses en profondeur, on est en train de remarquer que nos jeunes se font coopter et manipulés d'une certaine manière et rejoignent donc ceux qui sont à la base de tout le désordre politique au Togo. J'aurais pu voir Gaïtama faire autre chose que de pouvoir rejoindre l'arc-en-ciel parce que nous voulons un changement. Changement dans la méthode, changement dans la stratégie. Si c'est juste pour copier Agboibor, ou copier Ninevi ou se retrouver dans les mêmes choses, les mêmes recettes qui n'ont pas marché jusqu'à présent, je trouve que c'est du gâchis. Il faudrait que la jeune génération puisse faire la différence faire autre chose que ce que les leaders politiques que nous avons connus depuis ces 20 dernières années ont fait. Et donc, Gaïtama, soit il est en train complètement d'être enfariné, soit lui-même, il n'a pas les convictions solides pour mener la lutte de demain. Et nous ne voulons pas voir reproduire les Agoibo, les Ninevi, les Gilchrist Olympio, parce que c'est un échec cuisant sur toute la ligne. Il faut une nouvelle façon de penser, d'agir et de faire la politique. Et ce n'est pas en faisant des sortes de formations de circonstances qu'on va pouvoir régler la crise togolaise. Le problème qui se pose fondamentalement au Togo, c'est le changement, l'alternance politique. Et on a vu, Maître Agbo-Ibo a été à la tête de amener les négociations de l'APG. Et c'est depuis 2007 que ces réformes que le CST réclame devaient être faites. Il a été Premier ministre et on a vu que tout ça n'a pas été fait. Et c'est aujourd'hui que Maître Agbo-Ibo revient pour dire qu'il rassemble d'autres partis pour faire les réformes. Je trouve que tout ça, c'est de l'enfant.
Merci, Lawson. Merci, Thierry Lawson. Et malheureusement, nous sommes poursuivis par le temps. Il nous reste que 4 minutes. Alors, une dernière question rapidement. Il y a quelques mois, vous affirmiez, ici même dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, et qu'il serait impérieux de créer un collectif souvent le Togo branche ou diaspora. Est-ce que le MTN a déjà pris contact avec la base, c'est-à-dire les responsables du collectif souvent le Togo?
Oui, absolument. Là, nous sommes en pleine négociation, donc les démarches sont en cours. Et nous, ce que nous aimerions faire, en fait, c'est de servir de relais, ensemble avec les associations actives dans la diaspora, comme le Congrès mondial de la diaspora, ou encore le MO5, ou d'autres associations, la Diastod. D'autres associations de la diaspora, nous sommes donc en train de travailler de façon à ce que nous puissions servir de relais à tout ce qui se fait au Togo pour que l'action du CST porte à l'extérieur du Togo, au niveau des opinions politiques, au niveau des médias, au niveau des pays dans lesquels nous sommes fortement représentés, afin que ces pays-là, au niveau de la communauté internationale, puissent faire pression sur le gouvernement délinquant de Lomé pour que les choses puissent aller. Ce qu'il faut remarquer, c'est que Faure est dans la logique de la conservation du pouvoir. Il n'est pas prêt à lâcher le morceau. Et donc, alors que le Togo ne peut pas continuer dans la médiocrité, il faut faire entrer le Togo dans la modernité. Pour le faire, ça passe par le changement radical et non seulement l'alternance au pouvoir, mais l'alternative. Poser les jalons pour un Togo moderne, uni, prospère et dynamique dans les années à venir pour pouvoir répondre aux besoins des Togolais. Et pour le faire, ça prend vraiment que les Togolais se retrouvent et fassent fondamentalement des changements fondamentaux nécessaires à relancer un pays moderne. Sans cela, on sera en train de se tourner en bourrique, on sera en train d'essayer de cirer nos pompes, nos égaux, nos petits calculs politiciens, et fondamentalement, on ne s'inscrit pas dans la durée et dans l'histoire. C'est ce que nous demandons justement à tous les leaders politiques, de laisser les petits calculs politiciens pour leur propre parti de côté et de poser les jalons d'un Togo nouveau, moderne, et c'est le combat du MTN, et c'est le combat auquel on appelle toute la jeunesse, et toute la nouvelle génération à s'inscrire là-dedans, pour pouvoir avoir un Togo moderne. Le reste, ce n'est que du copinage, ce n'est que des petits calculs politiciens, et c'est à cela que nous aimerions inviter Gaïtama à réfléchir, de ne pas servir de porte-flambeau à une logique qui a échoué depuis plus de 20 ans.
Lawson Tielou, en tout cas, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Canada. Je rappelle que vous êtes président du MTN, Mouvement pour un Togo Nouveau, et votre mouvement vient d'avoir un an. Félicitations à vous, bon courage à toute la diaspora togolaise et africaine. Merci de rester toujours câblé sur le www.kanaka.ch. Mais moi, j'ai l'obligation de céder l'antenne à nos amis suisses. D'ici 8 minutes, je prends congé de vous. Mais encore une fois, restez toujours câblé sur le www.kanaka.ch.
Légende FM. partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, comme je le disais tantôt, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, 120 minutes, nous remercions encore une fois notre radio partenaire, les gens des FM à Lomé au Togo, qui va rediffuser cette émission demain dimanche à 18h. GMT, Sylvain Amous, Fabi Kouassi et Romain Koudodi, Augustin Améga, Josué Maoli, Esteban Gagnon, supervision générale, Michel Puello. À samedi prochain. Excellente soirée à toutes et à tous.